Chapitre 5e. Que l'humilité est le principal remède à l'amour-propre. L'amour-propre consiste, comme nous l'avons dit, dans l'amour désordonné de soi-même, de sa chère personne. Cet amour désordonné est fondé sur la vaine estime de soi-même. Si on ne faisait pas tant de cas de soi-même, on ne se rechercherait pas d'une manière si exclusive. On n'affectionne guère ce que l'on estime vil et de nul prix. Le principal remède à l'amour-propre, c'est donc la connaissance de soi-même qui s'acquiert par l'humilité. Nous allons nous occuper de cette excellente vertu. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité est un mot purement chrétien, qui tire son nom de deux expressions latines, humus, terre, litus, oint. Celui qui est vraiment humble se tient non seulement attaché en esprit à la terre par sa basse opinion qu'il a de lui-même, mais il voudrait en quelque sorte s'identifier avec elle, comme l'huile qui, en pénétrant la terre, ne semble faire qu'une même chose avec elle. Aucun homme qui a de telles idées de lui-même est loin de nourrir dans son âme le ver de l'amour-propre. On ne saurait donner de l'humilité une plus juste idée que celle qu'en a tracée saint Bernard par ses paroles. L'humilité, dit-il, est une vertu par laquelle l'homme, après avoir acquis une exacte connaissance de lui-même, devient méprisable à ses propres yeux. Ces paroles nous apprennent que l'humilité est établie sur la vérité, sur une vraie connaissance de soi-même. Il s'ensuit que celui qui se laisse emporter aux saillies de l'amour-propre, que celui qui s'estime lui-même, ne se connaît pas. Ne connaît pas le fond de misère et de corruption dont il est pétri. Ces paroles nous apprennent encore qu'il faut distinguer deux choses dans l'admirable vertu dont nous parlons. La connaissance de soi-même et de son néant, que l'on nomme humilité d'esprit, l'amour de son abjection, que l'on appelle l'humilité de cœur. Il ne faut pas grande pénétration ni grande réflexion pour se convaincre que l'on n'est rien, que l'on ne peut rien, que l'on est sur le bord de l'enfer par ses péchés. Les païens, des impies même, ont reconnu et reconnaissent tous les jours ces vérités. Mais aimer cet état par amour pour la vérité, pour ressembler à Jésus crucifié, mais se complaire dans son néant, dans ses misères, dans le mépris et les humiliations, c'est le caractère de la vraie humilité, de l'humilité chrétienne. Le disciple d'un Dieu crucifié ne doit être couvert que d'ignominie, rassasié que d'opprobre, environné que de croix. Commençons par la connaissance de nous-mêmes. Et voyons si l'amour-propre a de justes raisons de se complaire en lui-même. Écoutons d'abord saint Augustin. Qui suis-je? Se demande ce grand saint. Je vais vous le dire. Je suis un cadavre destiné à la pourriture. Je suis de la nourriture pour les vers. Je suis un vase rempli d'ordures. Je suis un enfant de colère. Et comme tel, propre à servir d'aliment aux flammes de l'enfer. Y a-t-il en tout cela de quoi nourrir l'amour-propre? Écoutons le pape Innocent. Qui donnera à mes yeux, dit-il, qui donnera à mes yeux une source de larmes pour pleurer les misères qui accompagnent l'homme dans sa naissance, dans sa vie et dans sa mort? J'ai considéré les larmes aux yeux. De quelle manière l'homme est formé, ce qu'il fait et ce qu'il doit devenir. Il a été formé de terre, il a été conçu en péché, il est né pour souffrir, il fait des choses mauvaises, la plupart de ses actions sont vaines et ridicules, Il devient un amas de pourriture. Il sert de nourriture aux vers. Hélas, peut-être le sera-t-il des flammes éternelles? Voyez les herbes et les arbres. Ils produisent des feuilles, des fleurs et des fruits. L'homme ne produit que des saletés. Il sort des herbes et des arbres de l'huile, du vin et du baume. Et il ne sort de toi, ô homme, que des ordures. Les herbes et les arbres exhalent des odeurs douces et agréables. Et il ne sort de toi que puanteur insupportable. Voyez l'homme lorsqu'il arrive à la vieillesse, alors sa tête est dans une agitation continuelle. Sa respiration est pénible, son haleine est désagréable, son front se ride, son corps se penche, ses yeux s'obscurcissent, ses narines découlent, ses cheveux tombent, ses mains tremblent et ne peuvent agir, ses dents chancellent, ses oreilles n'entendent qu'avec peine, et son cœur est dans une affliction qui ne cesse ni de jour, ni nuit. Je le demande, y a-t-il en tout cela de quoi flatter l'amour-propre? Écoutons maintenant Saint Bernard. Rien de plus expressif que ces paroles, rien de plus propre à nous couvrir de confusion à la vue de l'amour-propre dont nous sommes remplis. Si vous considérez avec soin, dit-il, ce qui sort par votre bouche, par vos narines et par les autres conduits de votre corps, vous avouerez qu'il n'est pas possible de voir un fumier plus dégoûtant. Si vous voulez compter toutes vos misères, de combien de péchés vous êtes couverts, de combien de vices vous êtes remplis, quelle est l'ardeur de votre concupiscence et de vos passions, de combien d'illusions vous êtes le jouet, et quel est votre penchant pour le mal et pour le crime. Si vous considérez attentivement tout cela, vous ne pourrez ni comprendre ni exprimer quelle est l'étendue de vos misères. Pourquoi est-ce donc que vous vous enorgueillissez comme vous faites? Pourquoi couvrez-vous votre corps d'habillements si délicats et si précieux? Ce corps que les vers mangeront dans peu de jours? Pourquoi ne prenez-vous aucun soin de votre âme? Pourquoi ne vous efforcez-vous pas d'orner de vertu cette âme qui doit être présentée à Dieu? Pourquoi mépriser ainsi votre âme et donner la préférence à une chair immonde? Je vais maintenant vous ouvrir mon cœur. Je ne crains qu'une seule chose, c'est que je ne souille vos oreilles par le récit du déplorable état de ma conscience. Je vous prie cependant, en grâce, d'écouter patiemment la déclaration d'un infâme pécheur. J'ai commencé à pécher en commençant à vivre. Mes vices ont cru avec l'âge, et mes premiers crimes, tout énormes qu'ils aient été, ont été moindres que les derniers. La coutume de mal faire s'est en moi changée en nature. J'ai constamment omis de faire le bien qui m'était commandé, et j'ai encore fait avec plus d'opiniâtreté le mal qui m'était défendu. Je suis indigne de regarder le ciel que j'ai méprisé par amour pour la terre. Je ne mérite pas de paraître devant Dieu, que je n'ai cessé d'offenser depuis mon enfance jusqu'à maintenant, et je dois craindre sa présence, ayant mérité par mes innombrables péchés son courroux et son indignation. Toute ma vie n'est qu'une suite de péchés. J'ai offensé Dieu en mon enfance, j'ai plus mal vécu en mon adolescence, et ma jeunesse a encore été pire. Ce qui augmente ma confusion, c'est que j'ai vieilli dans le mal, c'est que j'ai déshonoré ma vieillesse par de nouveaux péchés. J'ai toujours été de précipice en précipice, et je suis enfin tombé dans l'abîme de l'iniquité. Hélas, malheureux que je suis, je me vois dans un puits perdu. Je me vois enfoncé dans la fange de toutes sortes de vices. Hélas, je suis perdu, et moi seul je ne saurais me sauver. Je vous supplie donc très humblement de me tendre la main et de me procurer le secours de vos prières. Retirez-moi, par la force de vos oraisons, du péril où vous me savez. Quelle étonnante humilité! Tout le monde sait que Saint Bernard a été pendant toute sa vie un prodige d'innocence, et cependant quel sentiment! Quelle leçon pour nous qui, après une vie souillée de mille crimes, sommes si remplis de nous-mêmes! Comment l'amour-propre peut-il trouver place dans notre cœur après une vie si criminelle? Ne peut-on pas dire que nous sommes en amour-propre de vrais prodiges? Les philosophes païens eux-mêmes ont été pénétrés des misères innombrables de l'homme. Platon disait que notre misérable corps apportait 10 000 obstacles à notre âme pour l'empêcher de s'occuper de choses célestes conformes à sa nature. Un autre philosophe à qui l'empereur Adrien demandait ce que c'était que l'homme répondit en ces termes: L'homme est un esprit renfermé dans un corps. Il a été placé dans ce monde comme une sentinelle pour veiller à sa conservation et préserver son âme du vice. C'est un voyageur qui ne fait que passer. C'est un étranger qui a une autre patrie. C'est un mercenaire toujours accablé sous le poids du travail. Enfin, c'est un fantôme qui ne fait que paraître et qui devient bientôt la proie de la mort. Encore une fois, y a-t-il en tout cela de quoi s'enorgueillir? Ce que nous venons de dire regarde l'homme sous le rapport naturel. Qu'est-il? Un pur néant. Ce qui est si vrai que si Dieu retirait un moment sa main, s'il cessait un moment de nous soutenir, s'il retirait ce qui lui appartient, nous retournerions incontinent dans le néant. Qu'est-il encore? Cendres et poussière, pourriture, corruption, amas de saleté, que bientôt les hommes soustrairont à leur regard et cacheront dans le sein de la terre, n'en pouvant supporter ni la vue ni l'odeur infecte. Qu'est-il par rapport à l'âme? Pauvreté, misère, fond inépuisable de malice, capable de tous les crimes, esclave de toutes les passions. Ah, comment l'homme peut-il devenir l'esclave de l'amour-propre? Mais considérons l'homme sous le rapport spirituel et sous le rapport de la grâce. C'est ici que nous trouvons un abîme sans fond. C'est ici que notre amour ne trouve pas la moindre paille à laquelle il puisse s'accrocher. Examinons ceci attentivement, car c'est le vrai fondement de l'humilité chrétienne. C'est ce qui doit donner en nous la mort à l'amour-propre, à moins qu'il n'ait jeté de si profondes racines dans notre âme qu'il soit devenu comme indestructible. Que nous apprend la théologie sur le sujet dont nous parlons? Le voici. C'est que nous sommes dans une dépendance absolue et continuelle de la grâce de Dieu. Notre vie corporelle est un fil. Si Dieu coupe ce fil, notre corps tombe dans la poussière et la corruption. Notre vie spirituelle est aussi un fil qui est entre les mains de Dieu. Si Dieu ne tient ce fil, nous sommes perdus. De la grâce, nous tombons dans le péché, du péché dans l'impénitence finale, de l'impénitence finale dans l'enfer. La foi nous apprend donc que nous ne pouvons faire aucune œuvre méritoire de la vie éternelle sans la grâce de Dieu. Cette sainte grâce nous est nécessaire, non seulement pour commencer une bonne action surnaturel, mais pour la continuer. non seulement pour acquérir la grâce habituelle qui nous établit dans l'amitié de Dieu, mais encore pour agir actuellement d'une manière méritoire pour le ciel. Écoutons d'abord les oracles divins, et puis nous en tirerons des conséquences terribles pour l'amour-propre. Écoutons le divin Maître lui-même, notre Sauveur Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En assurant que sans lui, nous ne pouvons rien, disent les saints, Jésus-Christ nous apprend que sans lui, nous ne sommes pas capables d'aucune chose grande ou petite. Les Juifs murmuront un jour au sujet de la personne adorable de ce divin Sauveur, et étant scandalisés de la bassesse apparente de sa naissance temporelle, ne murmurez point, leur dit-il, cessez vos raisonnements humains. Personne ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Tous nos efforts sans la grâce de Dieu sont donc parfaitement inutiles pour parvenir à Jésus-Christ notre vie. C'est donc du ciel que dépend notre salut et les moyens qui sont nécessaires pour y parvenir. Peut-être nous préférons-nous aux autres à cause de la sainteté de notre état ou de notre vie. Écoutons ces paroles vraiment terribles. Au grand jour, au jour des assises générales du Seigneur, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Prêtons encore l'oreille et soyons dans une salutaire crainte. L'exemple revient d'autant mieux à notre sujet qu'il s'agit de personnes d'un état saint et d'une grande réputation de vertu, mais minées par l'amour-propre et l'estime d'elles-mêmes que leur dit le Sauveur. Je vous le dis en vérité. C'est un Dieu qui parle avec serment. Je vous le dis en vérité. Les publicains et les femmes publiques vous devanceront dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, comme l'expliquent les saints, que l'humilité et la pénitence pourront ouvrir à ces sortes de personnes les portes du ciel, tandis que l'orgueil et l'impénitence vous enfermeront les portes. Qui pourrait entendre cette terrible parole sans trembler? Qui pourrait après cela s'enorgueillir de son état? Les épîtres de saint Paul ne sont établis que sur ce grand principe de la nécessité de la grâce de Dieu. Aussi, quelle humilité que la sienne! Il se regarde comme le dernier des hommes et le premier des pécheurs. Il craint pour son salut, après avoir contribué au salut de tant d'autres par ses prédications. Méditons quelques-unes des maximes célestes de ce grand saint. Qu'avez-vous, demande-t-il d'abord, qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Si donc vous avez tout reçu, pourquoi vous glorifiez comme si vous n'aviez rien reçu? Comme s'il disait, tout ce que vous possédez, tous les biens de la nature, comme ceux de la grâce, tout cela ne vient-il pas de Dieu? Pourquoi vous appropriez-vous ce qui appartient à Dieu? Pourquoi ne lui en rapportez-vous pas toute la gloire et ne l'en remerciez-vous sans cesse? L'apôtre engage ailleurs les chrétiens à opérer leur salut avec crainte et tremblement, comme il le faisait lui-même, à ne point compter sur leurs œuvres, mais uniquement sur l'approbation de Dieu. Mes frères, dit-il, mes frères, glorifiez-vous seulement dans le Seigneur et non en vous-même, car ce n'est pas celui qui se glorifie lui-même qui est juste et saint, mais c'est celui que Dieu approuve et juge digne de recommandation. Il y a dans ces divines maximes une délicatesse de sentiment admirable qu'il est impossible d'exprimer. Méditons-les. Elles nous préserveront de l'amour-propre et du vice détestable, de l'ingratitude envers Dieu, qui, comme le dit saint Bernard, semblable à un vent brûlant est capable de tarir la source des grâces de Dieu et les effets de son amour à notre égard. L'apôtre des nations arrête encore ailleurs ces hommes ardents et présomptueux qui comptent trop sur leur force. Où allez-vous, mon frère? Pourquoi courir si vite? Pourquoi vous donner tant de mouvements pour avancer la grande affaire de votre perfection? Ah, comptez plutôt sur la miséricorde et sur la bonté de Dieu, car le salut et ce qui y conduit ne dépendent ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est lui qui inspire la bonne volonté et qui fait avancer. C'est lui qui commence l'œuvre parfaite et qui la conduit à sa perfection. Comptez donc non sur vos efforts, mais uniquement sur la bonté de Dieu. Ayez donc toujours les yeux sur lui, comme le serviteur ou la servante sur leur maître, et ne cessez de fixer vos regards sur lui, jusqu'à ce qu'il vous ait fait miséricorde. Sachez que vous êtes séduit par l'amour-propre si, n'étant rien en effet, vous vous estimez quelque chose. Saint Paul ne dit pas, si quelqu'un s'élève à ses propres yeux, s'il se croit quelque chose de grand, mais il assure que celui qui se croit même quelque petite chose, quoiqu'il ne soit rien, celui-là est dans l'erreur. Il est séduit par l'amour-propre. Hélas, sur quoi s'appuiera maintenant l'amour-propre? Où ira-t-il se retirer? Où trouvera-t-il une place? N'avions-nous pas raison de dire que le besoin absolu que nous avions de la grâce de Dieu pour faire la moindre action méritoire du ciel était le vrai fondement de l'humilité chrétienne? Ici vient bien à propos une expression de saint Vincent de Paul. Oh, que celui-là, dit-il, oh, que celui-là mettrait un grand obstacle à la grâce de Dieu dans les âmes qui croiraient y avoir la moindre part. Retirons-nous donc dans notre néant et avouons que nous sommes des serviteurs inutiles dont le grand-père de famille n'a nul besoin. Mais enfin, direz-vous, nous coopérons à la grâce, nous sommes libres d'y coopérer ou de n'y pas coopérer. C'est vrai, la foi l'enseigne, mais la même foi enseigne aussi que nous ne pouvons même coopérer à la grâce de Dieu sans la grâce. Oh, qu'est-ce que l'homme? Oh, qui s'étonnera maintenant de voir une si profonde humilité dans les saints? Qui ne voit maintenant que l'amour-propre qui nous domine, que cette vanité qui nous flatte est uniquement l'effet de notre aveuglement et peut-être de notre endurcissement? Que serait-ce si nous voulions parler ici de la persévérance finale? Quel nouveau motif de s'anéantir? Nous pouvons, comme le dit saint Augustin, à force de prière, l'obtenir de Dieu. Jésus-Christ a tout promis à la prière, mais pouvons-nous y avoir un droit strict? Non. Quelque secret orgueil, par exemple, ne nous la fera-t-il pas perdre? Qui nous l'a dit? La persévérance finale est un don que Dieu s'est réservé. Aurions-nous donné tous nos biens aux pauvres? Aurions-nous souffert tous les tourments des martyrs? Nous ne sommes pas assurés de l'obtenir. Plusieurs personnages d'une éminente sainteté n'avaient plus, pour ainsi dire, qu'un pas à faire pour entrer dans le royaume des cieux et sont tombés dans l'enfer. Témoin, ce malheureux qui souffrait avec les martyrs de Sébaste et qui, par son apostasie, céda la couronne à un des soldats qui la gardait. Qui ne craindrait? Mon Dieu, je mets ma confiance en vous. Ayez pitié de moi. J'espère en vous seul et en votre infinie miséricorde. Ayez pitié de moi, pour l'amour de Jésus-Christ, mon Sauveur, et en considération de sa très sainte mère, qui est aussi la mienne. tirons maintenant avec un pieux hauteur les conséquences des principes que nous venons d'établir, savoir que, sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. La grâce de Dieu, dit-il, est d'une nécessité si absolue, que si nous venions, par le plus grand des malheurs, à en être privés, nous ne pourrions résister à la moindre tentation. Nous tomberions dans des crimes horribles. Nous renoncerions au baptême ou à la vocation religieuse si nous avions fait les vœux de religion. Nous serions capables de tomber dans l'hérésie et même dans l'athéisme. Les miracles même les plus visibles ne nous toucheraient pas plus qu'ils n'ont converti les Juifs et mille autres incrédules qui en ont été les témoins. Consultons l'expérience à ce sujet. Que nous apprend-elle? Combien de fois n'avons-nous pas été arrêtés par un petit obstacle dont nous nous serions moqués en un autre temps? Combien de fois n'a-t-on pas vu de grands hommes trembler, pour ainsi dire, devant une mouche qui avait triomphé des plus grandes difficultés? Pourquoi une vérité qui fait aujourd'hui la plus vive impression sur notre esprit, demain, ne nous touche-t-elle plus? Pourquoi aujourd'hui sommes-nous éclairés, demain dans les ténèbres les plus épaisses? Pourquoi aujourd'hui sommes-nous dans l'abondance et demain stériles et durs comme des pierres? Tout cela ne nous montre-t-il pas la présence ou l'absence de la grâce? Le Seigneur, en permettant ces états différents, ne semble-t-il pas nous dire, voyez où vous tomberiez si je vous abandonnais? Voilà ce qui doit nous tenir dans la plus profonde humilité. Voilà ce qui doit faire dire à chacun, à chaque moment, ô mon Dieu, malheur à moi si vous m'abandonnez, comme je l'ai si souvent mérité. Voilà ce qui doit nous inspirer une vive reconnaissance pour un Dieu si bon, qui s'occupe sans cesse de nous, comme si nous étions seuls sur la terre, qui nous comble à chaque moment de bienfaits. Voilà ce qui doit nous porter à établir en lui seul toute notre confiance pour le temps et pour l'éternité. Celui qui a commencé en nous la bonne œuvre l'achèvera. Il ne nous a pas fait tant de grâce pour nous perdre.